Donc je voudrais évoquer ici deux aspects majeurs de la pensée d'Augustin. Premièrement, il est, sinon l'inventeur, du moins le premier grand théoricien du concept de libre arbitre de la volonté. Et deuxièmement, il est le premier à penser l'impuissance morale, la faiblesse, ce qu'Aristote appelait l'akrasia, en grec ça veut dire l'absence de maîtrise de soi, comme une faiblesse de la volonté. On traduit quelquefois incontinence. Il fait donc à la fois la théorie de la puissance d'agir et la théorie de l'impuissance d'agir. Mais loin de s'annuler, ces deux théories se confirment l'une l'autre. Elles caractérisent l'une et l'autre toute la pensée occidentale comme pensée de la volonté, et cela jusqu'à Schopenhauer et Nietzsche. Premier point donc, le libre arbitre de la volonté. Dans quel champ problématique le concept de libre arbitre intervient-il chez Augustin ? Augustin s'inscrit déjà dans l'horizon de ce que Leibniz appellera une théodicée, c'est-à-dire un traité sur la bonté de Dieu et l'origine du mal, le libre arbitre expliquant le passage de l'un à l'autre. Dans son fameux traité du libre arbitre, Augustin débat avec les manichéens. Les manichéens partent de deux prémices, deux principes. Premièrement, le Dieu transcendant est bon. Deuxièmement, notre monde se caractérise par l'expérience du mal. Dès lors, il faut trouver une explication. D'où la thèse numéro 3 des manichéens, ce monde n'a pas été créé par le Dieu transcendant, mais par un principe mauvais, et par conséquent, quatrième thèse et conséquence de la troisième, le mal fait partie de la nature en tant que la nature a été créée, donc elle est créée mauvaise, il y a une partie qui est mauvaise parce qu'elle est créée par un principe mauvais. Bien sûr, Augustin maintient les deux premières thèses. Dieu est bon, et le mal existe. Mais il nie la conséquence 3, c'est-à-dire que c'est le même Dieu qui est bon et créateur. Donc c'est la négation de 3. Et par conséquent, il arrive à la négation de la thèse 4, hein, le mal ne fait pas partie de la nature. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste que le mal soit l'œuvre de l'homme et pas de la nature. Pour cela, il faut qu'il y ait en l'homme un principe du mal, et ce principe du mal ne doit pas être naturel, puisque la nature est bonne. On va dire, appelons ce principe, disons, dans notre vocabulaire moderne, un principe historique et non naturel du mal. Quel est ce principe ? Nous allons le chercher avec Augustin du côté de la volonté. Néanmoins, pour Augustin, comme par exemple pour Cicéron, la volonté ne se présente pas d'abord comme un pouvoir de choisir entre le bien et le mal. En réalité, pour Augustin, nous ne voulons une chose que dans la mesure où elle nous apparaît comme bonne. C'est votre texte 1, dans le De Sermone Domini in Monte, qui est un texte de fin 393, début 395. La volonté se caractérise par le bien. Je cite, hein, « Il n'y a de volonté que dans ce qui a été de bonnes actions, car quand il s'agit de mauvaises, on parle proprement de convoitise et non de volonté. » Donc, il n'y a de volonté qu'à l'égard des bonnes actions. On ne veut que le bien. Et en réalité, dans toute son œuvre, même si ce point est malheureusement oblitéré par les traductions, Augustin ne dit jamais, jamais, absolument jamais, que la volonté peut vouloir le mal. Elle ne peut pas « malum velle » en latin. Il dit qu'elle peut mal vouloir, « malé velle ». Malheureusement, les traductions ne gardent pas ça. « Voluntas mali » n'existe pas chez Augustin. J'ai fait quelques recherches avec des outils informatiques. Le terme apparaît pour la première fois dans un commentaire anonyme de Matthieu au IXe siècle, puis on le retrouve exceptionnellement chez Abélard et exceptionnellement chez Saint Thomas, mais Là aussi, c'est plutôt des exceptions que la règle. Quoi qu'il en soit donc, le libre arbitre n'est pas une capacité de choisir une chose ou son contraire, il n'est pas d'abord une puissance indifférente. Ce n'est pas la capacité de choisir un bien ou un mal, c'est en réalité une puissance de choisir entre différents biens, et c'est cela qui caractérise la volonté. Pourtant, cette orientation peut s'inverser. Et c'est ce qu'on va voir à partir du traité du libre arbitre. Le concept de libre arbitre apparaît dans le traité qui porte ce nom, mais si on lit le traité du libre arbitre, vous avez peut-être commencé à le lire, vous l'avez peut-être déjà totalement lu, on est très étonné de voir le peu de correspondance entre le titre et le contenu. Le mot de libre arbitre apparaît extrêmement tard, vers la fin du livre 1, il y a trois livres dans le traité du libre arbitre, et donc on a un livre entier où, en fait, sans le mot libre arbitre. Dans ce passage, Augustin explique que l'action humaine ne devient mauvaise qu'en se soumettant à la passion. Notre raison, par nature, n'est pas soumise à la passion. Pourquoi ? Parce que le désir est inférieur et il n'a pas le pouvoir de nous soumettre à lui. La volonté peut toujours l'emporter sur la passion. Par conséquent, c'est notre texte 2, la seule chose qui fasse de l'esprit l'associé du désir, c'est la volonté propre et le libre arbitre. Et c'est la première occurrence du mot dans le traité du libre arbitre. Donc la destinée éthique de l'homme repose sur une puissance qui est distincte du désir, et bien, aussi, bien sûr aussi distincte de la raison, à laquelle, puissance à laquelle Augustin attribue la capacité de décider. Arbitrium, c'est cette capacité d'arbitrer. Et c'est la volonté. Dans ce passage, la volonté bonne, c'est le souhait juste par lequel nous souhaitons vivre droitement et honorablement et parvenir à la sagesse suprême. Donc on le voit, c'est la volonté qui est identifiée par Augustin à l'instance décisive du moi. Texte 3, elle est à tel point une instance décisive qu'elle a en quelque manière ce que nous possédons en plus propre, ce qui est nôtre, ce dont nous avons, ce qui caractérise la mienneté. Je ne trouve vraiment pas ce que je pourrais appeler mien si la volonté par laquelle je veux et ne veux pas n'est pas mienne. Donc vous voyez, si la volonté est mienne, tout le reste peut être mien. Mais si je n'ai pas de volonté à moi, je n'ai rien à moi. Donc la quintessence de la mienneté, c'est la volonté. Augustin souligne que cette volonté possède le pouvoir des contraires. Elle est capable de vouloir et rejeter. Alors il y a toujours le fameux problème de traduire le latin nolo. Alors quand on a une expression comme volo et nolo, bien sûr on traduit vouloir et ne pas vouloir. Mais nolle, c'est en fait vouloir que ne pas, c'est rejeter en fait. Parce qu'on peut aussi dire vouloir et ne pas vouloir, non velle. En tout cas, dans le latin scolastique plus tardif. Quoi qu'il en soit donc, la volonté a ce pouvoir de vouloir et de rejeter. Et nous sommes ici, déjà, parce que évidemment j'anticipe, dans le livre 3 du traité du libre-arbitre. Donc on a eu un parcours qui s'est produit, où on est passé de la simple apparition, texte 2, de l'expression libre arbitre de la volonté, à une caractérisation de la volonté comme le plus essentiel à moi-même, le plus mien de ce qui est mien. Donc entre le livre 1 et le livre 3 du traité du libre arbitre, s'est accompli une sorte de tournant. Comme le montre un traité comme le De Spiritu et Litera, la volonté est devenue la clé de l'action, elle-même capable d'agir par elle-même. Dans le De Spiritu et Litera, c'est un texte que vous n'avez pas, je n'ai pas pu vous donner tous les textes. Si elle veut, elle agit. Si elle ne veut pas, elle n'agit pas. Donc, vous voyez, la volonté est en quelque manière capable de déclencher à elle seule l'action. Autrement dit, on commence à voir apparaître que la volonté n'est plus comme chez les sages stoïciens, la volonté était le propre du sage, celui qui consent à un ordre nécessaire. Tandis que là, elle est devenue un principe universel que possède toute personne en tant qu'elle agit. Et Augustin dégage les conséquences de ce caractère central de la volonté. C'est le texte 3 bis. Si par elle, c'est par la volonté, j'agis mal, à qui ce mal doit-il être attribué, sinon à moi? Donc là encore, puisqu'elle est mienne, on peut se référer à moi à travers elle. Tout ce qui est fait par la volonté est fait par moi. Le problème est en réalité celui de l'imputation, c'est-à-dire celui de l'attribution des prédicats moraux. Comment remonter, comme dirait Nietzsche, d'une action bonne ou mauvaise au moi comme étant bon ou mauvais? Pourquoi dit-on, hein, c'est un sale type ou c'est quelqu'un, on peut compter dessus? Non. En nous concentrant, la réponse est qu'il faut nous concentrer sur une faculté invisible en nous qui est la source de l'action, à savoir la volonté. Si une action provient de la volonté, on va pouvoir m'en attribuer l'éloge ou le blâme, et dès lors, la volonté est vraiment le support des actions dont le mérite m'est attribué. Elle est le principe de toutes les attributions morales, elle est le principe de l'identité éthique de l'homme. Comme on l'a vu, la volonté se superpose au désir, mais c'est elle qui permet d'y consentir ou non, exactement sur le modèle de l'assentiment chez les stoïciens. Il faut une instance qui donne ou qui refuse le consentement. Mais pourquoi un libre arbitre est-il attribué à la volonté? Il me semble que Augustin réussit une synthèse entre deux traditions, hein, le liberum arbitrium, expression qu'on trouve déjà chez les pères de l'Église, et le concept de voluntas. Alors attention à une chose, le terme libre chez Augustin ne désigne pas un terme absolu, il désigne une relation, même si c'est de manière négative. Être libre de, ça veut dire être détaché, délié de. Donc la liberté n'a pas une valeur absolue ou en soi. Par exemple, Augustin, citant saint Paul, Romains 6, 20, souligne que nous pouvons être tantôt libres à l'égard de la justice, c'est-à-dire en fait injuste, hein, et esclaves du péché, et tantôt libérés du péché et esclaves de la justice, c'est-à-dire juste. Donc vous voyez, on est toujours libre ou esclave de quelque chose. La question est de savoir de quoi. Donc il n'y a pas de liberté absolue. Et je vous ai donné un texte éminemment augustinien, celui de Pascal, qui dit que l'homme est ou esclave du péché ou esclave de la justice, et partant, jamais libre de l'un ou de l'autre. La liberté n'est donc pas neutre. Ce n'est pas une indépendance absolue. Mais qu'est-ce que le libre arbitre? Donc comme je l'ai dit, le traité du libre arbitre retarde l'apparition du terme, qui apparaît finalement tard, et une seule fois dans le cours du livre 1. Et pourtant, non sans aplomb, en conclusion du livre 1, c'est le texte 5, Augustin dit la chose suivante. « Il me semble voir achevé et résolu le problème que nous avions décidé de traiter, d'où vient que nous agissons mal. » L'argumentation a montré que nous agissons ainsi par le libre arbitre de la volonté. Donc, qu'est-ce qui a été démontré? Il a été démontré que, contrairement à ce que croient les manichéens, ça n'est pas notre nature, mais notre volonté qui est à l'origine du mal. Vous voyez, même si je fais le mal parce que je consens à des passions, parce que j'agis selon des passions, en réalité, si j'ai agi selon des passions, c'est parce que j'y ai consenti par ma volonté, et donc c'est par ma volonté que j'en suis responsable. Donc, et du coup, le concept de volonté, à lui seul, permet d'innocenter Dieu, en expliquant comment ce n'est pas Dieu, mais l'homme qui est responsable du mal. Donc vous voyez que l'addition du concept de libre arbitre, comme on l'a vu dans le texte précédent, l'addition du concept de libre arbitre, permet de conclure la première partie en la rattachant au titre de l'ouvrage. Mais, comment dire, l'occurrence du concept de libre arbitre est une sorte de météorite. C'est un terme qui n'est pas véritablement justifié et fondé. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, tout simplement, c'est de manière allusive. C'est-à-dire que l'expression intervient comme une anticipation de la suite du dialogue. Parce que l'expression revient dans l'introduction du livre 2, puis elle disparaît, et elle revient de manière, par contre, tout à fait abondante dans le livre 3. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'absolument étrange dans le traité du libre-arbitre. C'est qu'au fond, le mot de libre-arbitre est presque, disons, ajouté lorsque Augustin dit, excusez-moi, c'est par la volonté propre et le libre-arbitre, texte 2, on peut tout à fait imaginer qu'il est parlé seulement de volonté propre dans une première rédaction et que l'expression libre-arbitre a été ajoutée dans la seconde rédaction. Et de même, la conclusion du livre 1 peut être une manière de se rapporter au titre au moment de la seconde rédaction. En effet, il existe une explication à cette étrangeté. C'est que la rédaction du traité a duré entre 3 et 8 ans, c'est-à-dire entre, au maximum, 387 et 395. Après Jésus-Christ, je précise. Augustin, au cours du traité, a changé de projet. Dans une première rédaction, il prévoyait un traité qui s'appelait « Sur l'origine du mal »,« Unde malum ». Et finalement, il a rédigé un ouvrage qui s'appelait « De libero arbitrio », traité sur le libre arbitre. Donc, il s'est passé quelque chose, c'est qu'entre la première version et la seconde, il a changé d'objectif. Et bien entendu, il a changé d'objectif parce que le libre arbitre était devenu, à ses yeux, la réponse au problème d'où vient le mal. Il a en réalité pas changé d'objectif principal, mais il a changé d'objet central pour cet ouvrage en trois livres. Il faut comprendre que pendant ces 3 à 8 années, Augustin a effectivement découvert le caractère absolument central du libre arbitre et que c'est comme ça qu'il a pu récupérer sa première rédaction pour y ajouter le concept de libre arbitre et pour faire ce développement sur le libre arbitre que l'on trouve dans la troisième partie principalement du traité du libre arbitre. Bien sûr, le concept de libre arbitre était déjà connu d'Augustin. Dans le traité sur la grandeur de l'âme, il signale que l'âme a reçu le libre arbitre et ceux qui s'efforcent de ruiner celui-ci par leur raisonnement vide sont aveugles au point qu'ils ne comprennent pas que c'est par leur volonté propre qu'ils profèrent ces propos vains et sacrilèges. C'est dans la grandeur de l'âme 36-80, BA 5-394. Mais Aristote ne lui donnait qu'une portée restreinte, et on voit d'ailleurs l'argument est un peu rhétorique, ça consiste à dire, si vous niez le libre-arbitre, c'est en fait que vous utilisez le libre-arbitre, donc en fait vous êtes obligé de reconnaître le libre-arbitre. Bon. Donc, à cette époque-là, le libre-arbitre n'était pas encore le centre de l'analyse éthique et la clé de l'origine du mal. Augustin lui-même nous apprend que le concept de libre-arbitre lui a été suggéré par saint Ambroise, à qui il doit sa conversion en partie. Texte 6. Et je redoublais d'attention pour saisir ce que j'entendais, chez Ambroise, que le libre arbitre de la volonté est la cause pour laquelle nous agissons mal. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que le traité du libre arbitre, c'est la conséquence de l'écoute des sermons d'Ambroise qui explique que l'origine du mal vient du libre arbitre. Mais l'analyse a été conquise de haute lutte. Je redoublais d'attention pour saisir, dit Augustin lui-même. Donc il y a eu un effort. Il a réélaboré lui-même la signification du libre-arbitre, en fait, dans d'autres traités rédigés entre-temps contre les manichéens. En fait, c'est là qu'on trouve la véritable apparition du concept de libre-arbitre et pas dans le traité du libre-arbitre, si je puis dire. Enfin, si, bien sûr, il y a aussi une explication dans le traité du libre-arbitre, mais elle est moins limpide. Comme je l'ai dit, les manichéens expliquent l'origine du mal par un drame cosmique, la lutte entre deux natures ou deux âmes, l'une bonne, l'autre mauvaise. Le principe mauvais et les natures mauvaises expliquent que nous fassions le mal, le principe bon et les natures bonnes que nous fassions le bien. Mais alors, c'est une nature qui m'impose le mal. Par conséquent, je n'en suis pas vraiment la cause. Vous voyez, si j'ai reçu une nature qui m'incite à la colère, je ne suis plus responsable de mes colères. Ça peut être rassurant quelquefois. Mais justement, Augustin dit, ce n'est pas la bonne explication. Le responsable ou la cause ne peut pas être simplement le mauvais démiurge qui m'a donné une mauvaise nature. Expliquer le mal par les natures, c'est ne rien expliquer. L'homme n'est responsable de ce qui lui arrive que s'il le veut. Donc c'est la volonté qui est la clé. S'il consent à la convoitise, non pas en raison de sa nature, mais en raison de son libre choix, liberum arbitrium, l'essentiel est sauf. Ça n'est pas une nature qui est à l'origine du mal, mais c'est une volonté. Donc c'est bien l'agent qui est le responsable. On n'a pas besoin de postuler qu'il y a une nature mauvaise en nous, donc on n'a pas besoin de postuler une nature mauvaise du tout. Donc la nature a été créée bonne, et Dieu est bon. Voilà, c'est comme cela que la théodicée, en quelque manière, est garantie. Dans son traité sur les deux âmes, qui, comme son nom l'indique, est dirigé contre cette anthropologie dualiste, traité des années 392, donc vous voyez, avant probablement la rédaction finale du traité du libre-arbitre, Augustin explique que, justement, justifier l'origine du mal par le mélange de deux âmes, c'est-à-dire par un sort tragique, c'est ne rien expliquer, puisqu'en fait, si ce sont des causes adverses qui s'entrecroisent en moi, je ne suis plus responsable. Or, le péché et la responsabilité résident dans la volonté. Pour établir ce point, Augustin se livre à un extraordinaire dépassement de la théorie aristotélicienne de l'action, même s'il n'en a pas nécessairement une connaissance directe. Selon Aristote, nous sommes responsables des actions accomplies de plein gré, celles qui ne sont faites ni par ignorance, ni par contrainte. Et bien sûr, Augustin reprend cette analyse. Par exemple, si quelqu'un se sert de ma main pour écrire quelque chose de blâmable pendant que je dors, théorie un petit peu étrange, mais enfin bon, je n'en suis pas responsable, parce que je suis dans l'ignorance. De même, si je suis attaché et qu'on utilise ma main de force, par exemple pour planter un poignard dans le dos de quelqu'un, je n'en suis pas responsable, parce que je suis soumis à une contrainte. Donc, comme Aristote, d'une certaine manière, Augustin admet que l'ignorance et la contrainte sont bien sûr des excuses acceptables. On ne va pas vous rendre responsable de ce qu'on vous a fait faire quand vous dormiez ou de ce qu'on vous avait fait faire quand vous étiez attaché et contraint. Donc il y a bien, comme chez Aristote, une caractérisation objective des circonstances de l'action qui excuse l'agent. Mais Augustin, ce n'est que le début de l'analyse d'Augustin. Augustin va plus loin pour dire la chose suivante, c'est que les circonstances extérieures ne suffisent pas à rendre l'action digne d'éloge ou de blâme. En réalité, je suis par principe exonéré lorsque mon corps accomplit des actions que je ne veux pas commettre. Donc, pourquoi est-ce que dans le sommeil ou dans la contrainte, je suis excusé ? C'est parce que je ne veux pas. Et à contrario, je suis coupable lorsque je veux les commettre. La preuve de cela est un cas limite inventé par Augustin, texte 7. Si le dormeur savait d'avance ce qu'un autre doit faire de sa main, et que, par une machination, afin de tromper quelqu'un par un serment, il se plonge dans le sommeil. Vous voyez, donc c'est probablement un contrat, un serment, un machin. Bon, donc il prend un somnifère pour que quelqu'un d'autre... Bon, évidemment, c'est très intéressant de se rendre compte que pour dépasser la théorie aristotélicienne de l'action, il faut quand même inventer des cas un peu particuliers. Mais c'est le cœur de l'analyse d'Augustin. Ben, si le dormeur, etc., se plonge lui-même dans le sommeil, est-ce qu'il est innocenté par le fait qu'il ignore ce qui se passe ? Réponse, non. Parce que, bien entendu, il a machiné tout cela, donc c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'il l'a voulu, donc il est coupable. Son intention était perverse, son ignorance ne l'en rend pas moins responsable, puisque c'est une ignorance volontaire. De même, et on voit qu'Augustin suit de près la problématique aristotélicienne, hein, si on prend le problème de la contrainte, prenons le cas de celui qui se fait attacher en le voulant. En fait, c'est un peu comme dans les films où il y a des cambriolages, où le type il se fait attacher pour montrer qu'il n'est pas complice. Bon, ben, c'est un peu la même chose. Une description extérieure ne permet pas de trancher. Évidemment, de l'extérieur, on ne voit aucune différence entre l'endormi naturel et l'endormi volontaire, hein, entre l'attaché par contrainte et l'attaché volontaire, c'est-à-dire le complice. Bon. Autrement dit, ce qui rend la personne responsable ou innocente, c'est le vouloir. Donc, ce qui renverse le sens de la même action, vous voyez, dans les deux cas, la personne est endormie, ou là, dans les deux cas, la personne est attachée. Ce qui la fait passer d'innocente à criminelle, c'est quelque chose d'invisible au témoin de la scène, c'est l'intention de la volonté de l'agent. Donc, pour Augustin, ça n'est pas l'action, ni même les circonstances qui fait la responsabilité, c'est la volonté. Donc on le voit, hein, la responsabilité n'est plus déployée au grand jour dans le monde public, ce n'est plus l'ensemble des circonstances, c'est véritablement quelque chose qui est invisible, une puissance intérieure, privée, la volonté. Vous voyez, on ne part pas de la portée objective de mon action, on recherche l'intime de la personne. Autrement dit, Augustin remplace l'exposé casuistique des excuses, et juridique des excuses, par l'analyse de l'intime. Un agent est innocent ou coupable selon qu'il consent ou qu'il ne consent pas. Désormais, ce qui dépend de nous, en grec ephémine, c'est-à-dire en latin ce qui est en notre pouvoir, in nostra potestate, s'identifie avec ce qu'il y a de libre dans notre volonté. Texte 8. Tu ne pourrais rien sentir qui soit en notre pouvoir, sinon ce que nous faisons quand nous le voulons. Notre volonté ne serait même plus une volonté si elle n'était en notre pouvoir. Mais puisqu'elle est en notre pouvoir, elle est libre pour nous. Oui, on a accès à la liberté, à la volonté plutôt, dès lors qu'on y consent. Hein, et en même temps, c'est ce qui définit ce qui est en notre pouvoir, ce qui dépend de nous. Donc vous voyez, la volonté est bien le principe d'imputation de toutes nos actions. Texte 9, hein, ni le péché ni la bonne action ne peuvent être imputés justement à celui qui n'a rien fait par sa volonté propre. Donc le péché et la bonne action résident dans le libre arbitre de la volonté. Vous voyez, nous ne méritons la peine et la récompense que si nous avons consenti par un acte du vouloir. Texte 10, la justice tient les hommes pour pécheurs par le seul fait de leur volonté mauvaise, même quand ils n'ont pas pu accomplir ce qu'ils voulaient. Donc, hein, même une volonté sans effet, c'est-à-dire une intention mauvaise, peut être digne d'éloge ou de blâme. Donc, on commence à traquer l'intériorité, le fort intérieur, les intentions. Mais quelle justice nous juge ? Il est clair qu'en fait, la justice a changé de lieu. Ce n'est plus le tribunal, ce n'est plus le forum, c'est une instance intérieure. D'Aristote à Augustin, la responsabilité est passée du champ de la coexistence entre les hommes à un domaine intérieur, la volonté. Du coup, elle a changé de juge. Celui qui juge n'est plus un autre homme, qui ignore tous nos souhaits inaccomplis, et si on a eu une mauvaise intention, personne d'autre ne peut le savoir, si elle n'a pas eu de conséquences. Mais celui qui juge, c'est nous-mêmes ou Dieu, qui sont les reins et les cœurs. Bien entendu, nous retrouvons ici Augustin comme grand penseur de l'intériorité. Texte de la vraie religion, traité de la vraie religion 39-72, ne va pas au dehors, rentre en toi-même, c'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité. Il s'agit d'ailleurs d'un mouvement dynamique. Comme l'a souligné Goulven-Madec, intérieur est un comparatif. Le mouvement de la conversion et de se retourner vers l'âme qui est plus intérieure que l'homme extérieur, pour se tourner ensuite vers Dieu qui est plus intérieur encore que l'âme. Donc, intérieur, c'est un mouvement. Pardon ? Vous voulez que je répète la phrase de « Ne va pas au dehors, rentre en toi-même, c'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité. » Texte du traité de la vraie religion, 39-72. BA 830. Sur ce point, le diagnostic de Nietzsche est pertinent. Pour que nous soyons dignes d'éloge ou de blâme, c'est-à-dire objet de la justice divine, il faut que nous ayons un libre arbitre. Celui-ci est exigé, en quelque manière, par le dispositif. Du coup, l'origine du mal n'est pas notre dépendance envers la chair, n'est pas notre dépendance envers une âme perverse. Parce que si c'était une dépendance envers la chair ou une âme perverse, nous ne serions pas responsables. Il y a péché, texte 11, il y a péché chaque fois qu'il y a vouloir d'une chose injuste et liberté de ne pas vouloir. On voit ici qu'Augustin relie quelque chose de tout à fait important, c'est qu'il faut à la fois avoir eu la capacité de vouloir cette chose, mais qu'en même temps il fallait avoir la volonté comme puissance de vouloir le contraire. Liberum nolle, c'est liberté de rejeter. Il faut donc que notre volonté soit capable d'accepter ou de rejeter au moment même, que nous ayons généralement la puissance d'accepter ou de rejeter une action pour que celle-ci soit imputable. Vous voyez ? Si la volonté n'était que la capacité de consentir à tout ce qui se présente, nous ne serions toujours pas responsables. C'est parce que la volonté est capable de consentir et de rejeter, parce qu'elle est capable des contraires. Donc cette contrariété, elle est essentielle, parce qu'elle explique que la volonté comme capacité, je vous le rappelle, la volonté comme vouloir du bien, puisse se détourner du bien. Je saute le texte 12 que vous pouvez lire par vous-même. C'est Augustin qui fait de la voluntas le concept central de la métaphysique de l'action, parce que c'est la voluntas, le vouloir, qui est le lieu où s'exerce le libre arbitre. La thèse a d'ailleurs marqué les langues occidentales, à tel point qu'en anglais, libre arbitre se dit free will, et en allemand, freie Wille. C'est-à-dire que le mot volonté a pris le pas et a remplacé le mot arbitre. En français, on dit libre arbitre. En anglais, en allemand, on a un radical qui est autour de l'acte de vouloir. Donc, l'interprétation augustinienne de la liberté a marqué jusqu'à la langue occidentale, jusqu'aux langues occidentales. Dans le traité du libre arbitre, Augustin applique cette découverte à l'origine du mal. Celui-ci ne peut pas provenir d'une nature mauvaise, pas même du désir, parce que le désir est inscrit dans une nature, mais que ça ne suffit pas pour fonder une imputation. Là se pose la question de la faute. Comment passe-t-on de l'idée que tout vouloir est vouloir d'un bien à l'idée que le vouloir explique que nous soyons responsables des mauvaises actions aussi? Réponse d'Augustin, par notre arbitre, nous pouvons choisir entre deux biens, le moindre bien. Mais choisir le moindre bien là où il y en a un meilleur à choisir, c'est la définition de la faute en réalité. Ce n'est pas, je cite là un texte de la Cité de Dieu que vous n'avez pas, ce n'est pas une chose inférieure qui a fait la volonté mauvaise, mais c'est la volonté même, en désirant la chose inférieure, de manière dépravée et désordonnée, qui s'est faite mauvaise. Donc vous voyez, c'est en voulant mal que la volonté se met à vouloir ce qui est un moindre bien, et donc à vouloir ce qui objectivement s'avère un mal, et donc à devenir une volonté mauvaise. Donc c'est le texte est dans la Cité de Dieu, 12-6, BA 35-166, ceux qui veulent aller le voir. Mais on peut encore objecter du point de vue d'une théodicée. donner à l'homme la capacité de se tromper, de choisir le moins bien. Est-ce que ce n'est pas déjà un mal? Et est-ce que dans ce cas-là, on ne revient pas indirectement à rendre encore Dieu responsable du mal? Vous voyez, Dieu ne serait pas responsable d'avoir créé le mal, mais il serait responsable de nous avoir créés capables du mal. Alors à cela, Augustin répond que Dieu n'est en rien responsable, d'abord parce qu'il nous crée bons, et que c'est nous qui devenons par nous-mêmes agents d'un choix qui s'avère mauvais. Et deuxièmement, Augustin a une réponse au second degré, si je puis dire, c'est que ça vaut encore mieux. C'est le texte 13. Une créature qui pêche par volonté libre est meilleure que celle qui ne pêche pas parce qu'elle n'a pas de libre arbitre. Vous voyez, il y a ici en gestation toute la réflexion sur la dignité de l'homme jusqu'à Pic de la Mirandole à la Renaissance. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir la nature d'un homme libre, capable de mal, de bien ou mal agir, donc capable de mal agir entre autres, et que la nature d'une pierre ou d'un animal qui ne peut qu'accomplir sa nature et qui ne peut évidemment que faire ce qui est bien pour elle. Enfin, si tant est qu'une évaluation morale a de sens. Enfin, elle peut faire que ce vers quoi elle tend par nature. Donc la dignité de l'homme, c'est justement d'être plus grand que la pierre ou l'animal, en ce que c'est par lui-même qu'il va choisir ce qu'il désire, et en cela, Dieu est meilleur parce qu'il... Pourquoi est-ce que Dieu est meilleur? Parce qu'il crée un être qui est meilleur. Donc la grandeur de l'ouvrage rejaillit sur l'auteur. Je saute le texte 14, puisqu'il va un peu dans le même sens. Un point important encore, qui est surtout net dans les derniers ouvrages, notamment dans La Cité de Dieu, c'est l'idée que l'arbitre, le libre arbitre, est contingent. C'est-à-dire que Augustin souligne que la volonté est totalement indépendante des états de choses externes comme des dispositions intérieures de celui qui veut. C'est une thèse extrême. Et l'illustre de la manière suivante. Si deux hommes également disposés, l'expression est importante, c'est-à-dire intérieurement identiques, on peut dire, si deux hommes également disposés d'âme et de corps voient un beau corps, et qu'à la suite de cette représentation, l'un est mû à en jouir illicitement, c'est joliment dit, tandis que l'autre persévère fermement dans sa volonté pudique, à quelle cause faut-il attribuer que la volonté de l'un devienne mauvaise et non celle de l'autre? Vous voyez? Donc, au lieu d'expliquer, je dirais, vous voyez, si on avait une position aristotélicienne, on dirait, chaque agent est attiré par des objets de son désir et proportionnellement à ce qui lui apparaît comme bon, il va choisir ce qui lui apparaît comme bon. Mais pour Aristote, la question n'est même pas posée, de savoir s'il y aurait deux individus identiques qui veuillent l'un une chose et l'autre son contraire. Or, Augustin pense que c'est possible. Et qu'il pense que deux personnes disposées exactement pareilles, vous voyez, dans leur conviction, dans leur croyance, dans leur chair, etc., devant le même être aimable, désirable, l'un consentira, l'autre ne consentira pas. C'est-à-dire qu'on définit la volonté comme absolument indépendante de tous les états du monde. Indépendant de mes états propres et des états objectifs, puisqu'il s'agit de la même personne, comme objet désirable. Autrement dit, donc, la volonté est capable d'une chose et de son contraire, indépendamment de toutes les circonstances. Donc la décision est indépendante. Elle est totalement indépendante. C'est la volonté qui décide seule, indépendamment de tout le reste, indépendamment de mes croyances, de mes dispositions corporelles, de mes désirs, et indépendamment de l'objet, puisqu'ici c'est le même. Autrement dit encore, on a ce qu'on pourrait appeler une définition libertarienne du libre-arbitre, libertarien étant la doctrine libertarienne étant la doctrine selon laquelle bien, dans deux mondes possibles différents, ma volonté peut dans un même monde possible, dans un même monde, créer deux mondes possibles différents. C'est-à-dire, je peux soit vouloir X, soit vouloir Y, et ça crée deux séries de possibilités absolument différentes. On voit pourquoi la pensée de la volonté est centrale. Kant le dira encore, il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté. Je vois que j'ai parlé trop, mais je vais essayer d'aller très vite sur la faiblesse de la volonté. Excusez-moi. Deuxième point, la faiblesse de la volonté. On voit la conception augustinienne de la volonté met celle-ci au centre. Le paradoxe étant que il dit dans le traité du libre-arbitre que rien n'est autant en notre pouvoir que la volonté même. Donc j'ai une puissance par la volonté et c'est la puissance par laquelle l'action dépend de moi. Rien n'est aussi puissant en moi que la volonté. Mais très vite, après avoir inventé dans son histoire personnelle, il n'est pas le premier à l'avoir inventé, mais avoir découvert le libre arbitre de la volonté, il déchante et il découvre la faiblesse de la volonté. Ça s'accompagne du fait qu'il a affaire à un autre adversaire que les manichéens, il a comme adversaire Pélage et les Pélagiens. C'est-à-dire que Augustin tient à souligner que il y a des actions que je veux accomplir, mais que je ne peux pas accomplir. Donc il y a des moments où la volonté, qui est ce qu'il y a de plus puissant en nous, eh bien même cela est impuissant. C'est le cas lorsque je suis prisonnier d'une habitude mauvaise. J'ai beau vouloir m'en débarrasser, je n'y parviens pas. Donc, comment expliquer cette expérience? D'abord, il la décrit comme une faiblesse de la volonté. C'est contemporain des controverses contre Pélage, c'est-à-dire qu'Augustin découvre que l'homme ne peut pas faire le bien par ses propres forces, sans l'aide de Dieu, et en même temps, il souligne, description non plus théologique mais philosophique, que la volonté laissée à elle-même est impuissante. Autrement dit, s'il est en notre pouvoir de déclencher des actions par la volonté, il n'est pas en notre pouvoir de vouloir ce que nous voulons. D'où la remarque que je trouve extraordinaire des Confessions, texte 18. D'où vient ce prodige, monstrum, ce monstre? L'âme commande au corps et aussitôt il obéit. Elle se commande à elle-même et cela résiste. Le latin dit resistitur, cela résiste. On résiste. Qu'est-ce qui résiste? Le désir, la convoitise, la libido. Bon, on retrouvera le mot de libido chez Freud, bien sûr. C'est-à-dire qu'en concentrant toute la force de la moralité dans une seule puissance, la volonté, Augustin y concentre aussi toute la faiblesse. Jusqu'à ce qu'il appelle lui-même un monstre, c'est un monstre logique et un monstre éthique, la volonté est une puissance impuissante. La vieille question aristotélicienne de l'acratia, l'incontinence, est devenue faiblesse de la volonté ou impuissance de la volonté. Ce qui est faiblesse au niveau individuel est appelé par Augustin péché originel au niveau collectif. Péché originel, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que l'homme n'est plus capable. Vous voyez, l'étrangeté, ce que souligne la phrase d'Augustin, je ne l'ai peut-être pas assez commenté, c'est qu'il est très facile à l'âme de commander au corps. Je peux me lever, je peux m'asseoir. Ça, c'est très facile. Mais lorsque l'âme se commande à elle-même, vous voyez, cesser de vouloir voler, cesser de vouloir être en colère, ou je ne sais quoi, eh bien là, j'en suis incapable. Donc, c'est tout à fait étrange, puisque l'âme est ce qu'il y a de plus spirituel, et la volonté est dans l'âme, eh bien, elle est impuissante. Donc, nous sommes incapables de vouloir. Euh, sous le nom de péché originel, Augustin décrit l'origine de notre incapacité à faire le bien, c'est ce qu'il dit explicitement dans sa discussion avec le manichéen Fortuna. Et nous sommes encore à l'époque de la rédaction du traité du libre-arbitre. Texte 20. Le texte est un peu long, mais je vais essayer de le lire vite. « Je dis que le premier homme était doué du libre-arbitre. Telle était sa nature que s'il eût voulu observer les commandements de Dieu, rien n'aurait pu résister à sa volonté. » Mais après que volontairement et librement il eut consenti au péché, il se vit dépouillé de tous ses privilèges, lui et ses descendants avec lui. Un instant d'attention suffit pour comprendre ce que j'avance. En effet, aujourd'hui encore, tant que nous n'avons pas rivé sur nous les chaînes d'une habitude mauvaise, nous sommes libres en face d'une action de la faire ou de ne pas la faire. Mais quand nous avons librement accompli cette action, le plaisir et je ne sais quelle douceur pernicieuse y enchaîne notre âme. L'habitude naît aussitôt, et l'habitude nous empêche de triompher du penchant que nous avons fait naître en péchant. C'est ainsi que nous voyons beaucoup d'hommes refuser de juger, mais parce que leur langue est entraînée par l'habitude, toute répression leur devient impossible, et nous les entendons dire, je pense, des paroles évidemment inspirées par le principe même du mal. Vous voyez, quand on a une fois pris l'habitude de médire de son voisin, on ne peut ensuite, spontanément, plus que continuer. Et c'est véritablement la description aristotélicienne de la faiblesse, la crassia, mais qui est devenue esclavage des passions, donc perte de la liberté originelle. Comment la liberté procède-t-elle pour choisir le mal ? Augustin le décrit dans les Confessions, texte 21, où on retrouve cette image des fers, hein, c'est-à-dire de se river sur soi-même une chaîne. Hein. C'est après cela que je soupirais, donc il soupirait vers Dieu, moi qu'enchaînais non des fers étrangers, mais les fers de ma propre volonté. Ayant choisi le mal, il s'est lui-même asservi par son propre vouloir. De la volonté perverse naît la passion, de l'esclavage de la passion naît l'habitude, et de la non-résistance à l'habitude naît la nécessité. Et par ces sortes de maillons reliés entre eux, c'est pourquoi j'ai parlé de chaînes, une dure servitude me retenait dans des liens étroits. Or, la volonté nouvelle qui venait de naître en moi, volonté de te servir gratuitement et de désirer jouir de toi, ô Dieu, seul charme véritable, n'était pas encore à même de surmonter ma volonté antérieure, forte de son ancienneté. Donc, Augustin veut le bien, mais il ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce que sa volonté du bien est limitée par la volonté antérieure qui était un esclavage. La liberté a forgé elle-même ses propres fers, elle est tombée dans la nécessité, qui n'a pas ici un sens logique, mais qui désigne la dépendance. Elle est de facto esclave alors qu'elle était originellement libre. Elle est esclave du mauvais choix qu'elle a fait à l'origine. Et c'est ça le péché originel. Ma servitude est une servitude volontaire. Donc, l'analyse d'Augustin diffère de celle d'Aristote sur plusieurs points. Premièrement, la faute ne réside pas dans le désordre des désirs, mais dans le consentement de la volonté. Deuxièmement, l'origine de la faute, là c'est une grosse différence, n'est pas renvoyée à mon origine personnelle, mais à une origine commune à toute l'humanité, chez le premier homme. Et troisièmement, il n'y a pas de réversibilité. Une fois perdue la liberté originelle, le vicieux ne peut pas revenir par lui-même à la vertu ou l'homme coupable devenir innocent. C'est là qu'il faudra faire appel à un autre, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Texte 22. Hein. Nous avons un libre arbitre pour faire le mal et le bien, mais pour faire le mal, chacun est libre à l'égard de la justice et esclave du péché, tandis que pour faire le bien, nul ne peut être libre à moins d'avoir été délivré par Dieu. Donc l'anthropologie d'Augustin est volontairement dissymétrique, inachevée. Il est impossible à l'éthique de se boucler sur elle-même. Il faut faire intervenir l'action d'un autre, en l'occurrence Dieu, pour pouvoir rétablir l'unité de la personne. Il y a un tragique indépassable de la condition humaine, et on sait que Pascal disait que sans le péché originel, l'homme est incompréhensible à lui-même. La faiblesse de la volonté ne s'explique évidemment plus par un déterminisme externe. Elle dépend de notre volonté elle-même. C'est pourquoi nous en sommes responsables, c'est pourquoi elle est coupable. C'est nous-mêmes qui, par l'habitude, avons rivé ces fers, texte 23. Cette analyse nous oblige à rechercher les raisons de notre impuissance dans la volonté elle-même, ce qui est une analyse à la fois très forte et très problématique. Très forte parce qu'elle fait remonter l'impuissance au cœur de la décision. Si je suis incapable de faire le bien que je vois, c'est parce que je n'ai pas une véritable volonté. En fait, j'ai une volonté qui est divisée, qui est affaiblie, qui n'est pas une volonté libre. Accomplir ce que je veux serait possible si je le voulais pleinement. C'est ce que dit le texte 24. Non seulement aller vers Dieu, mais encore y parvenir, ce n'était pas autre chose que vouloir y aller, j'entends le vouloir fortement et entièrement, et non pas tourner de ci de là et balloter une volonté à demi blessée qui lutte par une partie qui s'élève contre l'autre partie qui tombe. Autrement dit, il y a en nous plusieurs volontés qui se dressent l'une contre l'autre, qui sont contraires. Au fond, ma volonté est impuissante parce qu'elle est divisée. Bon, une partie d'Augustin rêve d'être riche, puissant, célèbre, entouré de femmes, et une autre partie rêve de se convertir, donner ses biens aux pauvres. Quelle est la partie qui va gagner? Alors, on connaît la suite de l'histoire, mais ce que je veux dire, c'est voilà, il est dans ce drame-là. Il y a deux volontés qui sont contradictoires. Texte 25, j'ai pu vouloir et ne pas faire si la mobilité de mes membres n'obéissait pas. J'ai donc fait beaucoup d'actions où vouloir, ce n'était pas la même chose que pouvoir. Et je ne faisais pas ce qui, par un attrait incomparable, plaisait davantage, et que bientôt, dès que je le voudrais, je le pourrais. Parce que bientôt, dès que je voudrais à fond. Donc, la conversion ne serait possible que lorsqu'il n'y aura plus ces deux volontés contraires, lorsqu'il y aura une seule volonté qui veut pleinement, totalement, de manière unifiée. Bref, il suffirait de vouloir vraiment pour pouvoir. Donc la réponse est très forte. Mais en même temps, cette réponse est très problématique. Parce qu'Augustin lui-même l'a souligné, c'est précisément la capacité de vouloir le contraire qui manque le plus à l'homme enfoncé dans le vice. On ne peut pas dire à l'homme qui est enfoncé dans telle ou telle dépendance, bah, il vous suffit de vouloir et puis vous allez vous en sortir. Parce que c'est justement ce vouloir qui lui manque le plus. Proust parle en augustinien lorsque, dans une de ses nouvelles, c'est dans La Confession d'une jeune fille, il dit la chose suivante et il parle de sa propre impuissance. Je sentais vaguement que l'habitude de me passer ainsi de vouloir commençait à peser sur moi de plus en plus fortement à mesure qu'elle prenait plus d'années, me doutant tristement que les choses ne changeraient pas tout d'un coup et qu'il ne fallait guère compter pour transformer ma vie et créer ma volonté sur un miracle qui ne m'aurait coûté aucune peine. Désirer avoir de la volonté n'y suffisait pas. Il aurait fallu précisément ce que je ne pouvais sans volonté, le vouloir. Vous voyez, il faudrait être capable de vouloir le bien pour s'en sortir. Mais justement, c'est ce qui me manque le plus. Pour l'interprète, il serait malgré tout trompeur de croire que la seule solution chez Augustin se trouve dans la grâce. À tout expliquer par la grâce, on n'explique plus rien. Il y a des témoignages qui montrent que Augustin a parfaitement conscience du fait que le combat moral demeure même chez celui qui a reçu la grâce, que la grâce n'est pas la solution miraculeuse à tous les problèmes. C'est le texte 27 qui est un sermon de saint Augustin à propos de Pâques, je crois. Et donc il parle des baptisés de Pâques. Et il explique ce qui se passe dans le cas d'un nouveau baptisé qui aurait un léger penchant pour la boisson, avant le baptême. Le voilà baptisé. Tous ses anciens péchés d'ivrognerie lui sont pardonnés. Mais il lui reste la mauvaise habitude et il doit, après sa régénération, lutter contre elle. Donc le baptême n'a pas enlevé son habitude. Mais voici de nouveau le désir de boire. C'est l'habitude mauvaise qui l'a formée, l'habitude contraire le détruira. Si tu ne l'écoutes pas, ton penchant à la boisson, si tu ne t'enivres jamais, il ira s'affaiblissant chaque jour. Donc on dit maintenant qu'il faut passer 6 mois bon, pour être sûr de pouvoir d'avoir une chance de ne pas retomber. Bon, peu importe. Mais la thèse augustinienne est là. C'est-à-dire qu'il y a encore un combat moral et que la solution n'est pas seulement dans la théologie de la grâce, il y a bien une anthropologie de la vertu. Je conclus. Lors même qu'elle soutient la faiblesse de la volonté, la pensée d'Augustin ne fait en réalité que confirmer le primat de la volonté. Car, par une construction philosophique très forte, c'est non seulement le principe de notre liberté qui est désormais fixé dans la volonté, mais aussi le principe de notre esclavage et celui de notre libération. Même notre faiblesse reste une faiblesse de la volonté, et la solution serait de vouloir de manière unifiée. Par là, Augustin marque toute l'histoire de la philosophie occidentale. J'ai dit qu'il s'agissait d'une construction. Je pense en effet qu'il s'agit d'un mythe qui s'intègre dans le mythe de l'intériorité, qui prétend fixer notre responsabilité sur un principe indivisible et unique, au lieu de se livrer à une analyse circonstancielle de la grammaire de nos actions. C'est peut-être cette seconde voie qu'il nous faudrait suivre si nous voulions expliquer la liberté humaine. Quoi qu'il en soit, telle est la force de l'analyse de saint Augustin, et je vous remercie.
Merci beaucoup. Le temps nous presse un petit peu. Je vais demander de donner tout de suite la parole à la salle. Qui aurait des questions? Sinon, j'en ai forcément quelques-unes.
Je crois que c'était un étirement et pas une question.
Voilà.
Là, il y a une question.
Il y a une vraie question voilà, au fond de la salle.
Au fond à droite.
Dans la Trinitate, nous trouvons les anges mauvais qui enseignent la magie aux hommes. Je voulais savoir, les anges mauvais dans saint Augustin ont-ils le libre arbitre et ils ont perdu avec l'habitude de pécher ou leur état est différent, les anges mauvais, le diable?
Oui, écoutez, tout simplement, eux aussi ont le même parcours, c'est-à-dire qu'il a fallu un choix, disons, dans leur temporalité à eux. Il a fallu un instant où ils se sont décidés en direction du bien ou en direction du mal, et à partir de ce moment-là, leur volonté est devenue ou bonne ou mauvaise. C'est comme ça que s'est fait le partage. Donc il n'y a pas eu une création de deux types d'anges, les uns bons et les autres mauvais. Ce sont les anges créés qui se sont rendus bons ou mauvais. Et tout le problème est de comprendre cette temporalité étrange où il faut qu'il y ait eu un premier instant où les anges se sont décidés, mais en même temps où on sait que les anges sont dans une sempiternité qui est particulière.
Oui, au fond, et puis ici. Ouais.
Oui, simplement, j'aimerais bien savoir comment est-ce que Augustin justifie la responsabilité si tout ce qu'on voit, c'est la description en fait de volonté déficiente, puisque sinon, enfin, la question se pose de comment ça se fait que certains peuvent vouloir plus le bien que d'autres? D'où vient en fait le fait que certains veuillent plus le bien, d'autres ne puissent pas vouloir autant le bien parmi les hommes?
Alors il y a deux niveaux de réponse. La première, si vous vous situez au niveau individuel, vous pouvez dire que ça vient de l'éducation, de tempérament, de différence de tempérament aussi. Enfin voilà. Mais la véritable question la plus profonde aux yeux d'Augustin consiste à dire que c'est. Alors après, ça explique pas tout à fait, mais je réponds quand même. La véritable réponse, c'est de dire que nous sommes marqués par le péché originel. Alors, après, la question est qu'on ne sait pas, mais nul ne sait de quel côté il est. On ne sait pas si on est du côté de ceux qui seront sauvés ou pas. Je ne sais pas si c'est peut-être rassurant comme information, d'ailleurs.
Est-ce que que vous voulez bien expliciter la dernière phrase de votre exposé, s'il vous plaît?
Ah. C'est vrai que c'est très, très allusif. D'abord, j'ai un peu coupé ma conclusion pour vous épargner. Mais ensuite, ça fait partie de mes recherches personnelles. Donc là, évidemment, c'est mes dadas. Mais c'est la question du mythe de l'intériorité. Wittgenstein a quand même eu des analyses extrêmement fortes sur ce sujet. Toute la pensée occidentale s'est construite autour de l'idée qu'il y a une espèce de puissance mystérieuse qui serait en nous, qu'on appelle l'âme, qui ferait l'unité de la personne. Et Augustin rajoute, si je puis dire, que le principe de nos actions est au plus intime de l'âme et que c'est la volonté. Mais vous voyez bien que, sans entrer dans le problème métaphysique, peut-il exister quelque chose comme une âme et une volonté au sein de l'âme ? Je dis simplement, pour l'analyse de nos actions, on arrive à un certain nombre d'apories quand on caractérise la responsabilité uniquement par une volonté qui serait une puissance mystérieuse en nous. Vous voyez, l'exemple type étant justement l'exemple étant les constructions étranges qu'Augustin est obligé de faire pour développer son idée, vous voyez, de responsabilité quand le type se verse du narcotique, après il se fait attacher, etc., pour prouver que c'est indépendant des circonstances. Je ne crois pas dans la pratique juridique. Bien entendu, l'intention peut être un facteur aggravant ou minorant, mais le point décisif est d'abord de savoir ce qui s'est produit. Donc il me semble que vous voyez, tout expliqué par l'intériorité, c'est en fait ne rien expliquer. Voilà. Donc c'était dans cet esprit-là que je le disais, mais je reconnais que j'ai été très allusif. Et il faudrait qu'on en discute plus longtemps. Mais l'évaluation le sens d'une action ne peut pas être indépendant des circonstances dans lesquelles elle est accomplie. Et du coup, cela fait partie de ce qui nous sert pour évaluer une action. Il n'y a pas d'un côté une description qui serait neutre. Vous voyez, on ne peut pas dire d'un côté, je vais faire une description absolument neutre d'un acte de cruauté ou de barbarie, et puis ensuite dire, oh, c'est affreux. En réalité, c'est dans la manière même dont je décris que je vous fais percevoir la cruauté et la barbarie de l'événement. C'est donc qu'on peut, dans ce qu'il y a de visible et de public, juger de l'action. Vous voyez, Augustin, en fait, le critère éthique de la volonté vaut si le juge ne juge que le fort intérieur, et si c'est Dieu qui est le juge, le seul vrai juge. Mais pour la coexistence entre les hommes, il y a aussi un fort extérieur, il y a aussi la rencontre entre les individus. Et là, on juge en fonction des actions et des circonstances. Et vous voulez... Allez-y.
Oui, on pourrait interpréter le passage que vous avez cité, enfin, de ces drôles de scénarios, tout à fait autrement, ouais. En disant que justement, en fait, la volonté, elle déborde sur le monde et elle produit du réel. C'est ce que fait ce type qui prend le somnifère, et qu'en fait, on ne se retrouve jamais, indépendamment de notre volonté, dans une situation. Et donc finalement, même si la vérité de la volonté est intérieure, et qu'extérieurement, on ne voit pas ce qui s'est passé, le sujet s'est retrouvé volontairement. C'est ce que dit Freud aussi.
Oui, alors, bon, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que je ne dis pas, je ne veux surtout pas dire qu'on ne doit pas tenir compte de nos choix. Bien sûr. La description qui consiste à dire deux individus constitués exactement pareils devant le même objet seraient capables l'un de le vouloir, l'autre de ne pas le vouloir, donc donner cette puissance extraordinaire à la volonté, c'est métaphysiquement pensable, mais éthiquement peu probable. Vous voyez, je vois mal, je veux dire, si l'un cède, c'est peut-être parce qu'il a une histoire personnelle différente ou parce qu'il a des penchants différents, mais dire qu'avec les mêmes penchants, l'un va céder et l'autre pas, j'ai beaucoup de mal à le croire. Mais bon, il faudrait beaucoup plus que cela.
Oui, bon. bonjour. Vous avez rappelé d'une part que pour Augustin, la nature n'était pas corrompue, et d'autre part, vous avez fait beaucoup de rapprochements à Pascal. Mmh. Pascal qui dit pourtant dans les pensées, la nature est corrompue par la nature même. Je voulais savoir dans quelle mesure vous pensiez ou ne pensiez pas que Pascal était augustinien en ce sens.
Je ne nierai pas que Pascal soit augustinien, je vous rassure. Mais, alors, il y a la nature et l'état de la nature. Vous voyez, ce que Augustin veut dire avant tout, c'est que la nature sort des mains du Créateur, si je puis dire, si on peut parler de main, intacte, intègre, pure. Ce qui introduit la corruption, ce n'est pas la nature qui a introduit la corruption, c'est la volonté. Donc, et qu'est-ce qui est corrompu? C'est la nature humaine. Donc, c'est un acte, nous sommes créés avec une nature bonne, dans cette nature bonne, il y a la volonté, mais l'acte de la volonté nous a poussé, enfin, nous nous sommes mis à choisir non seulement le bien, mais aussi le mal, et en choisissant le mal, nous avons rendu la nature de notre volonté mauvaise. Nous sommes mis à avoir une volonté mauvaise. Du coup, toute notre nature a été corrompue. Donc Augustin pourra dire que notre nature a été corrompue, mais alors là, on ne parle pas de la nature créée originellement. On parle de la nature historiquement, si je puis dire, modifiée par nous.
On a un peu l'impression que pour Augustin, personne n'est condamné finalement. Puisque in fine, pour faire le bien, on ne peut faire le bien à moins d'avoir été délivré par Dieu.
Ah oui, mais... Oui, mais alors là, vous présupposez une chose qui n'est pas chez Augustin, c'est que vous prenez au sens fort le texte de texte selon lequel Dieu veut que tout homme soit sauvé. Or, Augustin, il y a un problème très connu de la part des spécialistes d'Augustin, c'est qu'il y a des passages où il explique quand même clairement, et il réduit la puissance de cette phrase, justement, il réduit la valeur de cette proposition en disant que non, en réalité, Dieu veut que certains soient sauvés, et il y a ce qu'il appelle une massa damnata, un grand nombre qui est damné. Donc là, ça c'est. Alors, mais là, on parle de questions théologiques tout à fait différentes, mais c'est le point difficile, le plus controversé de la pensée d'Augustin, même au Moyen-Âge, hein, ce point-là a été discuté, y a-t-il une partie de l'humanité qui est damnée ou pas? Mais là, c'est une toute autre question.